prix le moins cher sur une journée en train et en avion. Donc, ce n'est pas une comparaison des prix moyens, c'est une comparaison du prix le moins cher dans la journée parce que c'est finalement, on s'est mis dans la peau d'un usager, d'une personne qui veut se déplacer et c'est ce qu'on va regarder.
Mais c'est pas que les prix affichés parce que parfois l'avion, il y a des choses qui se rajoutent au fur et à mesure quand on achète un billet.
Oui, l'avion low cost en particulier, les Ouigo aussi que vous connaissez peut-être,
Ouais.
vous avez des prises en option, des bagages
Les
en
trains low
option.
cost.
Exactement. Donc là, on a pris le prix brut le plus bas vraiment pour comparer le prix d'entrée. Et vous l'avez dit, donc sur les liaisons internes, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque le train est moins cher que l'avion. En revanche, et vous l'avez dit aussi sur les liaisons européennes, là, on a un fossé qui sépare les deux modes de transport puisque sur un Paris-Rome, par exemple, vous allez avoir des prix d'entrée en moyenne à 70 euros pour un billet d'avion et 210 euros pour un billet de train. Là, il y a un problème de signal prix, c'est-à-dire que si on veut que les Français choisissent le train parce que c'est beaucoup moins polluant, vous l'avez rappelé, il va falloir agir sur ce signal prix.
Oui, sur le débat et pour rebondir ce que disait Alexis Chailloux, je pense qu'il y a très peu de moments où le train est très, en tout cas le TGV, est très facilement concurrent avec l'avion. Alors ça, c'est un cas un peu particulier parce que l'Eurostar est particulièrement cher.
Oui.
Et on y reviendra, l'Eurostar est aussi en monopole sur ces lignes. Mais en vérité, à chaque fois que le train et le TGV a été en concurrence avec l'avion, le train a gagné. Je prends deux exemples, le Paris-Bordeaux ouvert en 2018. En 6 mois, vous avez quasiment toute la clientèle, quelques exceptions près, qui voyageait sur l'avion et qui finalement a pris le train à 2h04, un service extraordinaire. Bref, le train a gagné. Pareil sur le Paris-Strasbourg. Donc, à environ à 2h, 2h30 de trajet, le train, le TGV notamment, gagne toujours face à l'avion. Donc, il y a plus une complémentarité qu'une concurrence en vérité. Et après, quand on regarde réellement les tarifs, alors c'est un exemple un peu exceptionnel que vous me montrez avec l'Eurostar, mais en définitive, le tarif, c'est toujours les facteurs et le produit. Des coûts, et notamment le coût, la vraie différence de coût entre l'aérien, et on va sur le sujet de fiscalité, l'aérien et le train, c'est l'infrastructure.
Ouais, c'est ça.
Un réseau ferroviaire, ça coûte extrêmement cher à construire, à régénérer, et simplement un chiffre en termes de subvention, quand vous regardez ce que l'État consomme chaque année pour les deux modes de transport, la subvention pour les modes aériens, c'est à peu près 600 millions d'euros par an, pour le ferroviaire, c'est à peu près 10 à 12 milliards par an. Et même si vous rajoutez demain une taxe kérosène absolument maximaliste à 3 milliards par an, voilà, vous n'êtes jamais vraiment. Donc le mode ferroviaire restera toujours très largement subventionné, aussi parce qu'il remplit d'autres fonctions, notamment de dessert des territoires,
exactement,
de services publics. Mais c'est vraiment deux modes qui ne sont pas du tout comparables dans leur fiscalité, dans leur construction des coûts.
Alors, Guénaël, il faut savoir de qui on parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à la veille, quasiment pour des vacances pour les Français. En fait, chaque année.
C'est les vacances, hein,
c'est les vacances.
Oui, oui, non,
vous pouvez
vacances,
pas. Voilà, pas pour tout le monde, mais.
Peut-être pour vous, je ne sais pas. C'est voilà. Pas vacances scolaires.
Et en fait, chaque année, il y a environ 2/3 des Français qui partent en vacances. 65% des Français qui partent en vacances pour les petites vacances, pour les grandes vacances. Donc, déjà, et on pourra en reparler, mais en termes de mobilité, c'est-à-dire qu'il y a 35% des Français qui partent pas du tout. Et la mobilité est pour eux un problème. Parmi ceux qui partent en vacances, il y en a 85% qui partent en France. Et parmi eux, en fait, la majeure partie utilise, pareil, pour 8 vacanciers sur 10, la voiture.
La voiture,
en fait, c'est la voiture.
Reste, bien sûr,
voilà.
C'est ça, ouais.
Après, c'est à part égale entre le train et l'avion. C'est-à-dire 25-26% utilisent le train et l'avion. Mais au total, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, en France, il y a 19%, un Français sur 5, qui emprunte l'avion chaque année. Un Français sur 5, on peut dire déjà, beaucoup, enfin, c'est. Voilà. Et en moyenne, c'est pour 2 trajets aller-retour par an. Donc, déjà, ça permet de voir qu'on ne parle pas de tous les Français, je pense. Après, pourquoi est-ce qu'on prend l'avion ? Ceux qui prennent l'avion le prennent d'abord parce que. Alors, il y a deux contraintes temps dans nos vies. Il y a deux contraintes dans nos vies, la contrainte temps et la contrainte prix. La première raison, c'est parce que c'est plus pratique, c'est plus rapide. La deuxième raison, c'est parce qu'on se rend dans une destination qui n'est pas accessible autrement. Et la troisième raison, c'est la raison du prix. Parce que c'est plus avantageux. On prend l'avion parce que c'est plus avantageux.
Ça, il faut le dire, en fait, véritablement. Et c'est là où ça paraît assez surréaliste. Mais vous en parliez tout à l'heure.
Les vols internes, donc les vols hexagonaux, sont en train de chuter. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la tendance globale, c'est que sur le territoire hexagonal, on prend moins l'avion pour se déplacer. Donc il faut s'en féliciter. Les bonnes nouvelles écologiques sont suffisamment rares. Il faut le dire. En revanche, le secteur aérien, le trafic aérien explose à l'échelle européenne.
Et pourquoi à l'intérieur, finalement, il n'explose plus ? C'est parce qu'avec les TGV, qui finalement assurent des liaisons, comme vous le disiez tout à l'heure, par exemple à Paris-Bordeaux en 2 heures, ou alors ça veut dire qu'aussi on a pris conscience que l'avion était plus polluant ?
C'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une offre ferroviaire qui est fournie moins cher que l'avion, ce qui ne veut pas dire pas cher,
ouais.
Moins cher que l'avion, et que par ailleurs, on voit que c'est de plus en plus bien vu de voyager en train plutôt qu'en avion, sur les liaisons hexagonales. En revanche, en Europe, et vraiment, on alerte là-dessus parce que c'est des distances où le train peut concurrencer l'avion. On voit que Paris-Berlin a rouvert avec une ligne et de nuit et de jour, et les deux sont complètes. C'est-à-dire que les Français sont prêts à faire 8h18 de train pour se déplacer à Berlin. Et donc, c'est là qu'on propose d'agir. Juste une précision sur ce qui a été dit avant, le TGV ne reçoit pas 1 euro d'argent public. Donc quand on dit il y a beaucoup de subventions dans le ferroviaire, on met dedans les RER, on met dedans les TER, le TGV ne reçoit pas 1 euro d'argent public.
C'est un système. Sur le côté, justement, les Français prennent moins l'avion à l'intérieur, c'est-à-dire en France, même pour se déplacer, d'après vous, c'est parce qu'en effet, l'offre ferroviaire est plaisante et suffisante peut-être pour les Français, ou alors c'est qu'il y a une conscience écologique qui se met en place et ils se disent eh ben l'avion pour un petit trajet je le prends pas.
Je pense pour tout en général, mais d'abord parce qu'on a la géographie qu'on a, c'est-à-dire qu'on est un pays qui est hyper centralisé avec en gros Paris et son étoile et quand même un réseau qui est très développé, qui a notamment beaucoup développé les trains à grande vitesse. Et donc pour des raisons de contraintes de temps et de prix, dès lors que vous avez un TGV qui remplit son office et qui fait effectivement du point à point, qui permet de là aussi de la productivité dans le train, évidemment il trouve son public. Ouais. Et par ailleurs la SNCF est elle-même rentrée un petit peu en concurrence avec elle-même en favorisant par exemple des Ouigo qui historiquement devaient plutôt desservir des gares secondaires et qui en fait desservent aujourd'hui pour des raisons effectivement de baisse de tarifaires et d'accessibilité des gares principales. On a vu ce que politiquement ça a fait d'essayer d'opposer des modes. Rappelez-vous, il était très bon ton pendant des années d'être contre le nucléaire et pour l'éolien et le solaire. On voit bien que ça affaiblit finalement le fait de pas agir en complémentarité, de monter les modes les uns contre les autres, alors que dans les faits, les Français font ce qu'ils font.
Dans les faits, il y a quand même par rapport.
Mais si j'ai une seconde.
Allez-y. Ouais.
Déjà, le rapport de 1 à 70, et c'est un peu technique, mais quand vous rentrez dans le détail sur les effets distance, le taux de remplissage, les études qui démontrent ça très bien, sur le facteur de pollution, vous tombez de 1 à 70 à 1 à 8 à 9. Donc déjà, ça pollue plus, mais c'est pas de 1 à 70. Et deuxièmement, et c'est là où vraiment il faut raisonner décarbonation et capacité à faire des choses, au lieu d'avoir des discours moraux. Le seul secteur industriel au monde sur lequel la France a une capacité de décarboner de façon industrielle, c'est l'aviation.
Alors, on va continuer.
On maîtrise les moteurs.
Les 19% donc de Français qui prennent l'avion chaque année, en fait, on retrouve surreprésentés deux populations, c'est-à-dire les catégories socioprofessionnelles supérieures, pour le dire vite, les gens qui gagnent très bien leur vie, et les plus jeunes. Les plus jeunes voyagent beaucoup et aspirent à voyager beaucoup, aspirent à avoir de l'expérience. D'ailleurs, on dit voilà, les voyages forment la jeunesse et ça continue d'être vraiment le cas. Et on trouve en fait chez les plus jeunes les écarts les plus marqués. C'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement des jeunes. Alors il y a des jeunes qui ne voyagent pas du tout parce qu'ils cumulent le fait de justement ne pas avoir suffisamment d'argent et donc ne peuvent pas se déplacer. Et après, il y a des jeunes qui ne voyagent plus du tout en avion, qui ont vraiment décidé de ne plus du tout voyager en avion. D'ailleurs, il y a aujourd'hui un touriste français sur 10 qui décide de ne plus prendre l'avion, et plus encore les plus jeunes. Et en même temps, les plus jeunes sont aussi ceux qui prennent le plus l'avion pour des petits voyages, par exemple des petits voyages en week-end, parce que c'est souvent aussi, ils ne possèdent pas de voiture, ils sont aussi des contraintes de temps. Donc on retrouve en fait les deux extrêmes chez les plus jeunes, qu'on retrouve dans la société de manière générale, mais encore plus marqués.
Bon, Alexis Chahine.
Ça coûtait moins cher de acheter une nouvelle machine à laver que de la réparer. Ben, forcément, vous allez aller sur un nouvel achat. Or, ce serait plus écologique de réparer votre machine à laver. Là, c'est pareil. En fait, c'est pas une question morale, c'est une question financière. Paris-Rome 70 euros, Paris-Rome 210 euros. Moi, le choix est fait.
Ouais, c'est ça.
À plus de 60% sont sur justement les compagnies très low-cost.
Low-cost, oui.
Et donc, en fait, c'est leur moyen aussi de voyager. Et quand on les interroge, ils nous disent qu'ils ne sont pas du tout opposés à ce qu'il y ait des alternatives. Ils ne sont même pas opposés à ce que le prix de l'avion augmente. En fait, ils demandent surtout plus de trains aussi, plus d'accessibilité, plus de sécurité également. On voit des billets de train qui ne sont pas chers du tout, à 5 euros, mais qui peuvent être très tard le soir.
C'est
pas facile pour les jeunes filles, toutes seules, ou de voyager de cette façon-là. Donc, en fait, à partir du moment où il y a des alternatives, ils ne sont pas contre changer leur façon de voyager.
Alors, j'ai mis ce qu'on appelle le yield management. Ça a été beaucoup repris, notamment par la SNCF en France et d'une manière générale. Bon, c'est vraiment répondre au principe.
C'est des tarifs qui sont croissants au fur et à mesure qu'il y a moins de place dans le train.
Qui permet aussi de faire des petits prix et donc des prix d'appel. Mais c'est vraiment aujourd'hui une pratique qui est adoptée par tous les opérateurs de transport. Et puis, il y a le fait de standardiser, alors par contrainte dans l'avion, de standardiser notamment les bagages. C'est vrai que l'aviation, l'industrie de l'aviation, a pendant très longtemps essayé de découpler les tarifs. Grosso modo, vous achetez un siège et autour du siège, vous achetez des services, plus de cabines, plus de place pour les jambes. Et c'est vrai que ça, le fait de déréguler, d'avoir des opérateurs low cost qui deviennent très forts et assez dominants sur des trajets courts et le fait que les passagers ne veulent pas payer le bagage en soute, ça a amené effectivement ce Far West. Là, je pense que pour le coup, du point de vue du consommateur, si on raisonne comme ça, d'abord, je ne crois pas que ce soit très particulièrement inductif pour le trafic. Je pense que par contre, ça va résoudre beaucoup de problèmes à la fois dans les files d'attente et des problèmes très pratiques à bord des avions.
Allez. Tout ça, la du low cost qui vise à baisser les coûts au maximum, à séparer le siège et les autres options. Ajouter à ça la tarification dynamique dont parlait Jean-Baptiste Djebbari fait que vous allez avoir des billets d'avion à 15 euros. D'accord ? Donc Paris-Prague, Paris-Lisbonne, prix d'appel 15 euros. Et ce n'est pas des cas isolés. C'est-à-dire que nous, on a regardé donc, au niveau européen, sur 21 liaisons, la moitié, pas la moitié, non, un tiers, on a trouvé des billets à 15 euros. Donc
là, c'est pas le prix que vous payez, hein. c'est le prix qui est affiché.
Qui est affiché. Vous pouvez payer 15 euros. Après, il y a souvent des options qui rajoutent. Ouais. C'est 30% pour Ryanair qu'on rajoute en général, mais ça reste extrêmement bas. Et là, ça a un effet inductif. C'est même le business model des low cost, c'est-à-dire de vous pousser à faire un voyage que peut-être vous n'aviez même pas prévu à ce prix-là. Vous avez des systèmes comme Google Flights où vous pouvez dire je pars de telle ville à telle date et ils vous proposent le moins cher.
Ouais.
Et ça, c'est complètement contraire à nos engagements climatiques, en tout cas à nos objectifs climatiques, et c'est absolument pas une fatalité. Ça veut dire que s'il y avait une fiscalité plus juste sur l'aérien, on n'aurait pas des billets à 15 euros et on aurait de l'argent pour pouvoir baisser le train.
Alors,
un problème d'ordre de grandeur, si vous faites l'exercice factuel sur la France, de regarder combien l'État subventionne les deux secteurs, je l'ai dit un peu tout à l'heure, on subventionne en moyenne par an 10 à 12 milliards le secteur ferroviaire, et pour des très bonnes raisons, il y a un très grand réseau, on prend simplement les travaux de régénération par an, c'est 3 milliards. Et donc, de fait, vous n'arriverez pas à compresser ces coûts-là, on a un réseau de 27 000 km, il y a des coûts, et ils sont importants, et tant mieux, c'est aussi l'action publique.
Le réseau ferroviaire aussi, il a besoin de financement.
Le réseau ferroviaire, si vous prenez le secteur de l'aérien, en gros, vous prenez absolument toutes les mesures fiscales, c'est 600 millions par an. Si vous rajoutez, allez, admettons que la taxe kérosène au max en France, c'est vraiment le max du max, ça fasse 3 milliards d'euros, vous arrivez à un secteur de l'aérien qui serait financé en taxant au max de ce qu'on peut taxer de 3 milliards d'euros. Donc 3 milliards pour l'aérien, taxé possiblement 12 milliards pour le ferroviaire. Donc, de toute façon, il y a, c'est une illusion de continuer ces débats fiscaux parce qu'en termes d'ordre de grandeur, vous n'y arriverez jamais. Et là où Philippe Pascal a absolument raison, et c'est là où moi je ne comprends pas du tout cette écologie de la conflictualité, c'est que quand vous faites ça, par définition, le transport aérien étant global, vous abîmez qui ? Vous abîmez les acteurs du transport aérien français. Et ça, c'est une réalité tangible. L'effet récessif, c'est sur les boîtes françaises, les emplois qualifiés français. Et par définition, je suis en total désaccord avec Alexis, que je respecte beaucoup par ailleurs. Mais d'abord, un, le marché européen, il n'est pas du tout en croissance explosive. Il y a des secteurs. En Indonésie, oui. En Inde, oui. En Chine, oui. Pas en Europe. On retrouve à peine au niveau de 2019.
On va le laisser répondre.
À force d'avoir une approche très morale des choses et à ne pas se soucier de ce que veulent les gens, vous finissez d'abord, un, à être en contradiction avec ce que font les gens, et deuxièmement, vous abîmez votre tissu productif ici. Ça, c'est une aberration politique.
Alexis, je t'ai dit, le CO2, elles sont physiques. Elles sont pas morales, elles sont dans l'atmosphère.
Et sur cette taxation, finalement, qui serait...
Je sais pas si on peut développer là, mais par exemple, nous, on a estimé qu'une taxe sur le... Enfin, I4C, qui est un think tank, a développé que c'est 6 milliards d'euros par an, auquel on pourrait ajouter 3 milliards de TVA s'il y avait un taux normal. Je précise juste que la TVA sur les vols internationaux n'est pas à 10%, mais à 0%. C'est-à-dire que vous avez quand même une incitation, vous partez en voiture. En vacances, vous payez une taxe sur le carburant, vous partez en avion. Non. Vous allez acheter un vélo, vous payez 20% de TVA. Vous partez en avion, 0%. Il y a quand même une injustice. Et juste une précision par rapport à ce qui a été dit, les autres gros hubs aéroportuaires, donc les principaux aéroports en Europe, que sont Londres, Amsterdam, Francfort, ont des taxes bien plus élevées que la France. Donc il n'y a absolument pas de risque en se comparant avec des aéroports comparables de fuite de personnes qui iraient dans d'autres pays. Donc on a largement la capacité pour augmenter la fiscalité aérienne et ce n'est pas pour l'augmenter en soi.
Ouais.
C'est pour pouvoir baisser le prix des billets de train avec ça.
Et même
les Européens sont quand même plutôt sur une hausse. Le Royaume-Uni a encore augmenté sa taxe. Le Pays-Bas songe à augmenter la taxe pour les vols moyens et longs courriers. Donc voilà, la dynamique est là parce que on nous parle de déficit budgétaire. On nous dit qu'il n'y a pas assez d'argent et on a un secteur polluant qui ne paye pas autant de taxes qu'il devrait. Donc là, il y a une partie de la réponse.
Allez, on continue.